Le bistrot du livre. Poussez la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
Le bistrot du livre, une émission proposée par Cépage d'Encre, en compagnie de Françoise et Henri. Bonjour.
Bonjour Charline.
Bonjour. Alors aujourd'hui, accrochez-vous pour un plongeon dans le noir, dans le cruel, le côté obscur de l'âme humaine, le sordide et le dérisoire. Bienvenue dans l'univers d'un écrivain, un contemporain, un garçon né à Marseille, la ville de bien des excès et des violences. Un écrivain donc qui s'amuse à dire que la méchanceté, c'est la santé, mais plus sérieusement qui vous explique que le roman n'est que la réalité augmentée. Un garçon souriant et plein d'humour, lorsque ce n'est pas l'ironie, observateur comme pas un et se mettant en empathie avec ses personnages comme rarement, habitué des prix littéraires et depuis quelque temps des procès en diffamation, mais que rien n'arrête dans sa quête de la noirceur humaine.
Son nom, Régis Jauffray.
Au départ, rien ne prédisposait le jeune Régis à consacrer sa vie de romancier, au dérèglement et aux vices de l'humanité. Fils de très bonne famille, grand amateur de Proust et de Zola, brillant étudiant en philosophie, il quitte Marseille pour Paris. Il quitte sa famille pour épouser l'écriture. Des articles dans des revues, des pièces radiophoniques, un premier roman, puis un autre refusé par les éditeurs, mais remarqué par un certain Philippe Solers, le grand pape de l'intelligentsia et de l'édition parisienne. Solers fait publier ce roman de Jauffray chez De Noël. Son titre, « Seul au milieu d'elle ». On y découvre déjà le vif, le cru de l'auteur, écriture au scalpel, mais sans anesthésie. Et il faudra attendre 98 pour son vrai premier succès en librairie. « Histoire d'amour ». Histoire d'amour, conseil, avec Régis Jauffray, ne vous fiez jamais au titre.
Un matin, je l'ai vue assise en face de moi dans le wagon du métro qui me ramenait du lycée. J'ai tout de suite compris qu'elle serait ma femme. Sa poitrine était grosse, je me la figurais ferme, avec des aréoles d'un beau rose. Sous son pull, il me semblait que le ventre était plat, élastique, et qu'il se terminait par une pilosité abondante. Quand elle s'est levée et qu'elle est descendue sur le quai, je l'ai suivie. Elle vivait en banlieue, dans une résidence au gazon pelé, aux immeubles récents et déjà gris. Elle habitait un premier étage. Elle n'a pas utilisé l'ascenseur. Je suis montée derrière elle, mais pas raisonnée dans la cage d'escalier. Elle s'est retournée, elle a pris peur en me voyant. Elle a essayé de courir, elle est tombée sur la dernière marche avant le palier. Je lui ai mis la main sur la bouche pour l'empêcher de crier. Je lui ai dit d'une voix douce que nous avions voyagé dans le même wagon de métro et que je souhaitais la connaître. Je lui ai donné mon nom, mon adresse, ainsi que le nom du lycée où j'enseignais depuis presque 10 ans. Vous n'avez rien à craindre. Et j'ai enlevé ma main de sa bouche. Elle aurait pu hurler si elle avait voulu. Elle avait son trousseau de clés à sa main. Je m'en suis emparée. La peur la rendait docile. J'ai ouvert la porte de son appartement. Elle m'a suivie. J'ai refermé derrière nous. Elle tremblait. Je lui ai dit que je n'étais pas un assassin. Je me suis assise sur un fauteuil en essayant d'avoir un air naturel qui la rassure. Venez vous asseoir.
Histoire d'amour, en fait, une longue période de séquestration, avec à certains moments des temps de vie apparemment normaux, lui retourne à ses cours, elle a toute l'attitude pour sortir, mais le plus troublant, et c'est ça qui intéresse Jauffray, c'est l'emprise, ce pouvoir de domination, observer le chasseur et la proie. Une thématique que l'on retrouvera dans 3 autres romans tirés de l'actualité, car c'est là l'un des domaines de prédilection du romancier, partir du réel, de faits avérés, et s'immiscer dans cette histoire pour en faire, non pas une fiction, mais écrire une autre forme de réalité. Exemple, avec Sévère, paru en 2010, tiré du meurtre d'un banquier français par sa maîtresse, tous deux adeptes du sadomasochisme. Meurtre vraiment, ou je poussais à son paroxysme ? Question. La justice a tranché en faveur d'un meurtre et condamné la jeune femme.
Je l'ai rencontrée un soir de printemps. Je suis devenue sa maîtresse. Je lui ai offert la combinaison en latex qu'il portait le jour de sa mort. Je lui ai servi de secrétaire sexuel. Il m'a initiée au maniement des armes. Il m'a fait cadeau d'un revolver. Je lui ai extorqué $1 million. Il me l'a repris. Je l'ai abattu d'une balle entre les deux yeux. Il est tombé de la chaise où je l'avais attaché. Il respirait encore. Je l'ai achevé. Je suis allée prendre une douche. J'ai ramassé les douilles. Je les ai mises dans mon sac avec le revolver. J'ai claqué la porte de l'appartement. Le système de surveillance avait enregistré ma sortie de l'immeuble à 21h30. Je suis montée dans ma voiture. Un orage avait éclaté dans les lointains du lac. J'ai brûlé des feux rouges. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit à mon mari que je partais en voyage. Je partais loin. Les meurtrières s'en vont. Les fuseaux horaires permettent de remonter le temps, de retrouver l'instant où rien n'a encore eu lieu.
C'est là tout le talent de Geoffrey, précis comme un rapport d'autopsie, au plus près des sentiments, du ressenti des personnages. Mais pour ce faire, le romancier agit comme un journaliste, un enquêteur. Il va sur place, visite les lieux, rencontre certains témoins, assiste au procès parfois, comme en Autriche, pour Clostria, condensé de claustration, celui qui est enfermé, et d'Austria, l'Autriche, où l'histoire de cette femme, histoire réelle, d'Angelica, enfermée dans la cave par son père durant 24 ans et à qui il fera 7 enfants. Pour les maintenir emprisonnés ainsi, il leur fait boire du terre-haleine pour endormir toute velléité de révolte.
Angelica en buvait souvent quand elle n'en pouvait plus. Comme on prend une cuite. Un état de mollesse, d'euphorie, de lutte béate contre l'endormissement qui finissait par arriver comme un bouquet final. Réveil pâteux, mal aux cheveux, nausée, une gueule de bois tenace et les cachets d'aspirine avalés en avalanche. Pas de civilisation sans drogue. Parfois, la vie devient trop noire. L'avenir ne semble pas plus lumineux qu'une tombe et l'angoisse devient barbarie. Le peuple de la cave buvait ce sirop comme d'autres le vin de palme, l'alcool de bois, la vodka frelatée qui moissonne des générations d'enfants des rues sombres des villes de l'Est de l'Europe. Angelica en aurait bien injecté dans ses veines, mais dans la cave, il n'y avait pas de seringue.
Le roman de la monstruosité, diront certains. En fait, le romancier a suivi les débats lors du procès en Autriche, a noté les dépositions et ensuite s'est juste mis à sa table pour écrire l'histoire à sa façon, se rapprocher du possible, au plus près. Mais qu'est-ce qui est le plus horrible ? La fiction ou le réel ? Prenez encore l'objet de son dernier livre scandale qui lui vaut une plainte en diffamation, La balade de Rikers Island. Tout le monde connaît, mais peu ont lu l'histoire, le livre. Alors si je vous dis Rikers Island, le nom d'un pénitencier de New York en bout de piste de l'aéroport de La Guardia. Si j'ajoute Sofitel, eh bien oui, l'affaire DSK. Une affaire qui a saturé l'espace médiatique. Et pourtant, Geoffrey s'y engouffre, non par voyeurisme ou suivisme, non, pour une chose toute simple. Une phrase qui va attiser sa curiosité, déclencher son enquête, son roman. Cette phrase, d'une naïveté extrême, mais qui traduit bien le désarroi de la victime et le problème des classes. Celle de Nafissatou Diallo, qui demandera à son avocat « Est-ce que les clients ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent avec nous ?» Et dans ce livre, Geoffrey accorde une grande place aux femmes de cette histoire sordide. La femme de chambre, donc, mais aussi la femme de DSK, Anne Sinclair, qui assumera au-delà de tout son rôle d'épouse, même bafouée, même trahie.
Elle marche vers Central Park. Elle se dit qu'elle est seule sous le ciel bleu. Les passants dans les allées sont des personnages imaginaires. Son époux, une image grotesque qu'elle évacue à chaque pas, dans un éternuement. Elle s'assoit sous les arbres. L'hypothèse du réel redevenue une certitude, une douleur. Même le souvenir de leur première nuit, il l'avait profané, cabossé, rendu poisseux par ses épanchements adultères. Un homme, une déception, et ses cachets qui tiraient vers sa trompe tout le sang de sa tête. Un éléphant dans le magasin de porcelaine de l'ambition. Et elle, qui paierait jusqu'au bout les pots cassés. Elle romprait comme on s'envole. Elle n'aurait pas la faiblesse de finir au fond du pot conjugal que son mari continuerait à remplir des ordures de la trahison.
Mais il ne faut quand même pas croire que dans la noirceur de l'âme humaine, dans l'univers de Régis Jauffray, il n'y ait pas de place à l'humour. Un humour un peu grinçant, c'est vrai, mais dans l'absurde, il y a de quoi faire. La preuve, dans ses microfictions, publiées en 2007, une suite de nouvelles aussi déjantées les unes que les autres. Une, entre autres, pour le plaisir.
Quand il fait nuit, on peut perdre un bébé, même si on n'a pas bougé de chez soi. Vous le couchez à 7 heures, à 11 heures, vous vous apercevez qu'il n'y a plus personne dans le berceau. Vous essayez de garder votre calme, le pire serait de céder à l'affolement. Vous vous dites qu'il y a sûrement une raison à son absence, même si elle vous semble inexplicable pour l'instant. Alors, vous décidez de ne rien changer à vos habitudes et d'aller vous préparer une tisane de tilleul à la cuisine avant de vous mettre au lit. Sous la couette, vous apercevez que vous êtes un peu nerveuse et vous regardez un Laurel et Hardy. Ces deux-là vous font tellement rire que vous oubliez aussitôt vos soucis.
L'après-midi, je m'étais fait prendre en volant ce film. J'ai dû le payer. Et je suis comme vous, j'ai horreur de payer. Bref, j'ai fini par m'endormir de très bonne humeur et je crois que j'ai été secoué dans mon sommeil par de véritables quintes de rire. Je croyais que Joujou crierait dès qu'il ferait jour pour réclamer son lait. Mais je me suis réveillé en début de matinée, dans le silence total. Je ne me suis pas inquiété outre mesure. J'en ai profité pour aller acheter des croissants. J'ai pris un bon petit déjeuner au lit. J'ai regretté simplement que l'appartement soit si sombre et que malgré le beau temps, ma chambre ne soit pas égayée par le moindre rayon de soleil. Il faut que je déménage. C'est ce que je me suis dit. Je rêvais même d'une petite maison dans une banlieue résidentielle. Après tout, ma situation financière s'améliorerait sans doute. Je pouvais plaire à un ingénieur ou à une de ces femmes bourrées de fric qui magouillent dans la finance. Je pensais même à la possibilité de m'en sortir par moi-même, comme une fille d'aujourd'hui, en vendant de fausses Rolex par Internet.
Quant au bébé, je me suis dit qu'il était bien où il était. Dans la vie, chacun finit par trouver sa voie. Rien ne me disait, en réalité, comme beaucoup d'autres mères, je n'avais pas refusé de le voir grandir et qu'il n'était pas allé tenter sa chance loin du foyer familial. Je me reprochais même de l'avoir trop couvé. Les garçons ont besoin de taloches pour persévérer dans leurs études. Alors que Joujou ne savait pas seulement lire et écrire. J'ai décidé que s'il revenait, je prendrais son éducation en main. Mais il n'est pas revenu. Et à votre avis, il n'avait que 3 semaines. Dans ces conditions, quelqu'un l'aura volé. Pourtant, je ne me fais aucun souci. Il finira bien par réapparaître. Il faut être patient. On ne fait rien de bon dans la panique. D'abord, on me le rendra peut-être. Et puis, si dans 25 ans, je le revois par hasard à la télévision, je me dirai qu'à partir du moment où il présente le journal du soir, je n'ai pas perdu mon temps en le mettant au monde.
Et dans le même style, Déjanté vient de sortir cette année Bravo. Bravo, c'est les portraits de petits vieux, aussi méchants et retors les uns que les autres, roublards, jaloux, colériques, que du bonheur. Ce qui plaît à Jauffray. Il s'en expliquait il n'y a pas si longtemps au micro d'Augustin Trapenard sur France Inter. Moi, l'image du petit gentil, du vieux petit et gentil, ah non, merci.
Intéressant, ceux qui sont intéressants, c'est ceux qui ont encore de l'énergie. Souvent, c'est ceux qui ont mauvais esprit, qui ont beaucoup d'énergie.
Oui, puisqu'ils ont de l'énergie, vos vieux, quand même.
Oui, mais c'est ceux qui m'intéressent. Et puis, je me projette peut-être dans le cadre de vieillards, justement, qui sont pas des vieillards, parce que quand on a à ce point de l'énergie, on n'est plus un vieux.
Seriez-vous devenu méchant à l'approche de la soixantaine, Régis Jauffray?
Oh non, j'ai dû l'être toujours, mais en même temps, je suis toujours surpris. par ce genre de choses, parce que moi, la littérature que je connais et d'où je viens, elle est méchante et cruelle, parce que toute la littérature est comme ça. C'est avec le temps qu'on a l'air de dire que c'est gentil, mais la littérature, c'est profondément méchant, c'est profondément pervers toujours. Par exemple, pour moi, un des grands auteurs, ça va être Joyce, par exemple. Joyce, on lui a reproché pendant des décennies Molly Bloom dans Ulysse, quoi, ce monologue obscène, etc. Proust, pareil. Je connais pas la littérature sympathique, adaptée aux besoins publicitaires. Je la connais pas.
Voilà, Régis Geoffrey, voilà pour son dossier. À vous de juger, mais croyez-moi, ça se lit vraiment bien. Et c'est une très très belle écriture. Voilà, elle est très précise. On passe au courrier des lecteurs maintenant. Charlie, un petit titre, un auteur, un coup de cœur?
Eh bien, des bouquins emmenés partout. On parle de romans noirs, de romans criminels. On parle d'un détective de choc, alias Monsieur Nestor Burma, de Léo Mallet. Et on aime les nouveaux mystères de Paris. Ce qu'on aime, c'est l'écriture, avec l'argot parisien, l'humour, la poésie. Et quand on est parisien, ce qu'on aime aussi, c'est que chaque énigme a pour décor un arrondissement de la capitale. À lire tous, je ne conseille pas spécialement, dans les nouveaux mystères de Paris, de Léo Mallet.
Françoise ?
Alors, pour moi, c'est un roman de Julie Otsuka qui s'appelle « Certaines n'avaient jamais vu la mer ». Donc ça, c'est un magnifique roman. En 8 brefs chapitres, elle nous fait entendre les paroles des milliers de jeunes femmes japonaises qui sont embarquées dans les années 20-40 à destination de San Francisco pour rejoindre un mari, mais dont elles n'avaient que la photo. Et leur rêve devient déception, souffrance. Elles s'imaginaient femmes, épouses dorlotées dans une belle villa. Elles seront servantes, domestiques, travailleuses de la terre, dans des campements à la lisière des villes. Et tout ça pour nous le faire entendre, Julie Otsuka, elle emploie le « nous ». Tout le long du livre, elle emploie le « nous ». Donc comme un cœur enquêtique. Des voix qui racontent les vies d'exilés, leurs rêves, leurs espérances, leurs souffrances, leurs combats, leurs désillusions. Donc c'est superbe, et ce « nous » rend comme ça, comme un espèce de chant. C'est un chant, en fait, ce livre-là. Et c'est paru aux éditions Phébus.
Voilà. Certaines n'avaient jamais vu la mer. Un livre superbe, une polyphonie. Et moi, je vais en revenir un petit peu à l'ambiance de Léo Mallet, des Mystères de Paris, avec un dictionnaire que Françoise m'a offert. Elle adore les dictionnaires. Et c'est un pur bonheur. C'est le dictionnaire des mots, des flics et des voyous. C'est écrit par Philippe Normand. Philippe Normand a été plus de 30 ans au sein de la PJ à Paris, en tant que commandant de police, traduisait Comanche. Et là, vous avez tout l'argot de Paris, tout l'argot des flics, tout l'argot des voyous, tout l'argot des proxénètes, et puis c'est réactualisé aussi avec l'argot des banlieues et tout ça. Alors, juste un petit exercice pratique, exercice de traduction. Moi, je vais vous dire une phrase. Au moment où il voulait titaniquer, le cave, en sortant de sa planque, n'a pas maté le sous-marin posé par la maison Poulaga, et après une filoche, s'est fait poser les bracelets par les bourgs. Direction Zonzon, un Waterloo XXL. Traduction. Au moment où il voulait disparaître, se faire oublier, le cave, c'est-à-dire le flic, le voyou minable, en sortant de la maison où il s'était caché, n'a pas vu le soum. Le sous-marin, c'est les voitures de surveillance des flics, posées par la maison Poulaga, là, il n'y a pas besoin de traduction. Et après, une filoche, une filature, il s'est fait mettre les menottes par les policiers. Direction Zonzon, la prison, un Waterloo XXL, une défaite en grande largeur. voilà pour aujourd'hui, pour les livres. Et maintenant, un petit coup d'œil sur l'agenda.
L'agenda avec un rendez-vous qui promet à Carcassonne, au centre Joué Bousquet.
Oui, à partir du 18 décembre, c'est l'atelier Butor, où le croisement des œuvres du poète carcassonnais Joué Bousquet avec le touche-à-tout génial qu'est Michel Butor, écrivain, poète, dessinateur, auteur de livres d'art, essayiste, critique, une encyclopédie à lui tout seul, une curiosité insatiable, doublée d'une modestie à toute épreuve.
Et aussi, notez déjà ce rendez-vous aux Essarts, ce lieu culturel de Bram, le 20 décembre, dans le cadre de l'exposition du peintre Grigio à la rencontre des grands maîtres. C'est Page d'encre.
Autant dire nous.
Vous proposera une lecture de texte présentant le travail du peintre.
Avec des textes de Daniel Bégard, Jean-Claude Pirotte et René Depestre, un critique d'art, un poète et un romancier, que du beau monde. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.